Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ça fait plusieurs semaines qu'à Code Source, on voulait donner la parole aux restaurateurs et restauratrices dont le travail est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Le 8 janvier, nous avons été touchés par le portrait dans Le Parisien de la patronne du Petit Cambodge à Paris, Kirita Galois. Pour cette femme de 51 ans, l'épidémie de Covid-19 est un coup dur supplémentaire. Elle, dont l'établissement avait été frappé par les attentats du 13 novembre 2015 et dont la famille avait fui les Khmers Rouges au début des années 70. Kirita Galois raconte son parcours, sa vie, aujourd'hui dans Code Source, au micro de Claudia Prolongeau.
Kirita Galois est arrivée en France en 1972. Elle avait 4 ans et à ce moment-là, au Cambodge, dans son pays natal, se déroule une guerre civile qui oppose le gouvernement du royaume du Cambodge aux Khmers Rouges, alliés aux Vietnamiens du Nord. Là-bas, son père dirige une plantation d'EVA qui sert à produire du caoutchouc et sa mère est professeure de français dans un lycée.
Moi, j'avais des souvenirs, mais très flous, de notre départ, parce qu'on est parti assez précipitamment. Mes parents ont pris des billets d'avion aller-retour, ils avaient les moyens à l'époque. Ils avaient l'espoir d'y retourner, je pense. Quand ils sont partis, papa et maman étaient quand même... Maman avait 32 ans. Et ils avaient une vie un peu rêvée. Hein. Il y avait pas de... Ils avaient des invités tous les week-ends. Et quand on est arrivé en France, on a été hébergés par des amis de maman et papa, qui étaient professeurs de français, monsieur et madame Dupont, Chantal et Patrice Dupont, qui vivaient à Toulouse. Donc on a vécu... Peut-être un mois chez eux, ils nous ont hébergés gentiment. Et par la suite, papa, en lisant le journal, cherchait du travail. Il a trouvé donc cette annonce et il contacte la personne. C'est monsieur Jean Bruel, qui était le PDG des Bateaux Mouches.
La famille part donc s'installer dans une petite commune, à côté de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Le travail des parents de Kirita est de surveiller l'immense maison de monsieur Bruel. Un homme fortuné, caractériel et imprévisible. Comme tous les autres enfants, Kirita et son grand frère parlent français, vont à l'école et se font des copains. En 1973, leurs parents obtiennent d'être naturalisés.
Quand on était à Guerne, donc dans la propriété de M. et Mme Bruel, maman avait invité M. et Mme Truet, qui était l'instit et l'institutrice du village, le maire du village. Et grâce à eux, en fait, on s'est fait naturaliser. Et comme papa et maman avaient comme meilleurs amis M. et Mme Dupont, Patrice et Chantal, je trouvais ça normal de prendre leur prénom pour nous donner à nous. Donc moi qui m'appelais Kirita, je suis devenue Chantal, ça c'était dur. Et mon frère c'est devenu Patrice, ma maman Marie-Josée parce qu'elle a été élevée chez les sœurs à Kep, au Cambodge. Et du coup c'était voilà Marie-Josée. Et papa, comme il est né le 25 décembre, c'était Noël. Donc c'est nouveau nom, nouveau baptême entre guillemets. Et du coup, à l'école, c'était compliqué parce que maman me dit « Kirita, on t'appellera Chantal, tu feras attention. » Et évidemment, au bout d'un moment, la maîtresse, elle m'appelle Chantal et puis moi, je réponds pas. Je la regarde, je lui dis « Mais elle est folle, pourquoi elle fait ça ?» Après, elle insiste. Aujourd'hui, j'ai fait des démarches pour retrouver Kirita et ça a été accepté.
Et vous êtes restée Chantal combien d'années alors ?
Eh bien, de 1973, je crois, jusqu'à 2020.
De Monsieur Bruel, Kirita garde aussi le souvenir des meilleures vacances d'été qu'elle ait jamais passées. Avec sa famille, il se rendait près de Carcassonne, dans son grand domaine, où lui vivait dans la belle maison et eux en avaient une petite juste à côté. Mais ces sautes d'humeur étaient difficiles à supporter pour les parents de Kirita, qui finissent par se lasser. Ils décident alors de s'installer à Paris, dans le 15e arrondissement, et d'ouvrir une petite épicerie qui devient vite un petit restaurant où l'on vend des plats cambodgiens.
Quand on a ouvert le petit boui-boui qui était au 44 boulevard Montparnasse, ils nous avaient donné des chaises en plastique qui s'accrochaient sur le côté, des tables en métal sous lesquelles on avait mis un chauffage, donc c'était la seule table que les gens voulaient parce qu'elle était chaude. On bricolait, les gens nous apportaient des tables, des chaises. Parfois, les gens venaient à... Parce que c'était tout petit, c'était un truc tout en couloir. Ça disjonctait, c'était vraiment un gros bazar. On avait fait un premier menu. C'était moi, j'avais fait ça sur une machine à écrire pourrie. Mais c'était un premier menu, premier jet, rouleau de printemps, bouboune, riz poulet, soupe numpen, soupe au bœuf. Et ça cartonnait. Et le délice banane, déjà, qui existait chez nous. Et ça marchait super bien. Vraiment, les gens, c'était du bouche à oreille. Et les gens venaient avec énormément de plaisir, ils kiffaient ma mère.
Les parents de Kirita travaillent beaucoup, au point d'avoir fait installer une mezzanine dans leur restaurant pour pouvoir y dormir. Avec son frère, elle s'épanouit dans cet univers épicé et chaleureux. Kirita aide sa mère en cuisine, et quand elle a des difficultés en maths au lycée, elle trouve toujours des clients pour lui donner un coup de main. Pour payer ses études, Kirita trouve un premier job dans un grand magasin. C'est là qu'elle rencontre Christian, et ils tombent éperdument amoureux. Le boulot d'été devient un boulot de l'année aussi. Kirita et Christian passent de plus en plus de temps ensemble et ils finissent par s'installer dans un studio du 10e arrondissement qui appartient au père de Christian, à seulement quelques rues de l'avenue Richerand où est situé aujourd'hui le restaurant Le Cambodge. À l'époque, c'est une vieille boulangerie qui ne fonctionne plus.
Donc on a occupé ce petit studio, puis en se baladant dans le quartier avec Christian, on a repéré cet endroit. Et Christian, il me dit « Oh, c'est quand même... » Et moi, je dis « Ouais, quand même. »
Les deux amoureux décident alors de louer ce local pour y monter eux aussi un restaurant, Le Cambodge. Les parents de Kirita ont fermé le leur il y a 4 ans, en 1992, et ils leur proposent de les aider.
J'ai regardé, je savais faire, mais il fallait quand même se mettre dedans et tout. Et donc, effectivement, papa et maman m'aidaient. Et ça se passait pas super bien, parce que maman a un très fort caractère et me tapait tout le temps dessus. Elle m'envoyait des galettes dans la tronche. C'était pas... Et de prof, j'avais des bananes dans la gueule aussi. C'était waouh, elle était ça le caractère. Donc il y avait des jours où on boudait. Ma mère boudait. Mais finalement, il y avait quand même de l'amour. Hein. C'était l'amour vache.
À l'époque, le quartier est loin d'être aussi animé qu'aujourd'hui. Le Cambodge a malgré tout quelques clients qui semblent contents de ce qu'ils trouvent au restaurant. Kirita et Christian s'installent au-dessus de l'établissement, ont deux enfants et continuent à travailler comme des fous. Les années 2000 et les travaux dans le quartier amènent de plus en plus de magasins et de clients. Au Cambodge, consacré par quelques articles de journaux, on accepte de faire la queue jusqu'à 2 heures pour avoir le plaisir de manger les plats de Kirita.
Je fais ça par amour de la nourriture parce que maman me l'a... Mes parents me l'ont transféré et transmis plutôt. J'aime manger et j'aime donner de l'amour à travers la nourriture. C'est vraiment un truc depuis toujours. Et malheureusement, quand on a trop de monde comme ça, on finit par être relativement désagréable parce qu'on est obligé de dire aux gens, écoutez, il y a 1h30 d'attente, ça va être compliqué de vous donner une table. Et les gens, ils disent, la table est là. Oui, mais en fait, c'est déjà pour une personne. À un moment donné, on était un peu débordés.
Pour elle et Christian, ce n'est plus possible. Il faut ouvrir un autre restaurant. Ce sera le Petit Cambodge, en 2013, rue Alibert, à quelques dizaines de mètres de là.
C'était bien parce que ça nous a complètement vidé le Cambodge. Des clients, au début, quand on venait d'ouvrir le Petit Cambodge, ils disaient « Non mais, vous savez, il y a des gens quand même gonflés. Ils se sont fait appeler le Petit Cambodge, ils sont installés juste là. Vous êtes au courant ?» Alors, moi je dis « Ah bah oui, c'est nos gants, c'est nous. »« Ah, ok, d'accord. » Du coup, ils se marraient.
Je cherchais où le bruit, j'étais d'un coup, je suis que c'était vers le Carillon et le Petit Cambodge. Et j'arrive sur place et il y avait plein de cadavres par terre. Les petites cambodges, le carillon, les gens ils sont en terrasse, à l'intérieur, à l'extérieur. Apparemment la voiture elle est arrivée, ils ont sorti la calache, ils ont tiré sur tout le monde quoi.
En 2015, les attentats du 13 novembre rendent le Petit Cambodge tristement célèbre. Cette nuit-là, les terroristes, en tirant sur les clients du restaurant, font 14 morts. Le traumatisme est énorme pour Kirita, Christian et Simon, qui est devenu leur associé depuis 2013.
En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout cassé au petit Cambodge. On a tout reconstruit, même le matériel à l'intérieur, c'est-à-dire les tables et chaises. On a fait des travaux pour que ce soit différent. Sur le carrelage, il y a eu des petites étoiles qui étaient symboliques des personnes qui sont parties. Comme le local où ça s'est passé appartient à la mairie, ils nous ont proposé d'intégrer un nouveau local. Le local était vraiment vierge de tout, donc il n'y avait rien, c'est-à-dire même du béton, même pas de carrelage, rien du tout. Pas d'électricité, pas d'eau, rien.
Ce local de l'avenue Claude Velfaud dont elle parle est celui qui doit accueillir un nouveau restaurant. Kirita aimerait que ça soit un peu différent des autres et souhaite y proposer de nouvelles recettes. Mettre le local aux normes prend du temps et les travaux ne débutent finalement qu'en 2018. Avec les autres restaurants à gérer, l'ouverture est retardée et alors que ça doit bientôt arriver, le coronavirus fait son apparition et met un nouveau coup d'arrêt au projet. Les livraisons à domicile qu'ils ont mises en place depuis l'ouverture du Petit Cambodge en 2013 les sauvent.
Heureusement, on a encore les livraisons, pourvu que ça dure, qui nous permettent de continuer. Le Cambodge a été fermé parce que, au niveau des charges, les charges sont beaucoup trop lourdes. Si on regarde sur la totalité de l'année, on s'en sort tout juste. Mais voilà, c'est un coup dur sur le moral, pour tout le monde.
En novembre 2020, presque 5 ans jour pour jour après les attentats, un nouveau coup dur frappe Kirita et ses associés. Le 16, ils apprennent qu'un groupe de squatteurs s'est installé 2 jours plus tôt dans le local de l'avenue Velfaud. Militants anti-gentrification comme ils se définissent, ils ont pour ambition de reprendre le local à la ville afin d'héberger ceux qui en ont besoin plutôt que d'ouvrir un nouveau restaurant.
Ça nous a un peu plombé cette histoire. De se dire qu'il faut encore se battre pour essayer de s'en sortir, c'est chiant. De toute façon, tout ce qu'ils voulaient, c'est faire parler d'eux sur notre dos et c'est vraiment déplorable parce qu'on est... On n'est pas là pour faire de la politique, on veut juste travailler.
Soutenus par leurs avocats, Kirita et ses associés obtiennent le 4 janvier que la justice ordonne l'évacuation des lieux. Le 13, un peu plus d'une semaine après, alors que les locaux sont toujours occupés, la police intervient pour déloger les squatteurs. Kirita et ses associés peuvent réintégrer les lieux et remettre enfin leur propre serrure sur la porte.
C'est juste dur de se dire que les gens qui sont impliqués dedans sont vraiment de mauvais augure, vraiment. Et ils ont réussi, c'est ça le pire.
Vous dites qu'ils ont réussi parce qu'on en a parlé ?
Ouais. Et de toute façon, le seul moyen de faire parler de ce genre de choses, c'était de se faire aider par les médias, finalement, parce que pour faire du bruit. Et ils savaient très bien qu'on allait en arriver là, même si au départ, on ne voulait pas forcément. Et bon, voilà. Écoutez, on continue. Le petit Cambodge continue. On travaille. On s'accroche.
Et vous allez tenir ? Vous pensez que vous allez tenir ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais même pas si on va réouvrir. Je pense qu'on va réouvrir, mais ça ne va pas être dans un... Pas tout de suite. Hein.
Vous tablez sur une réouverture quand, vous ?
Nous, on pensait au mois de mai. Je dirais avril-mai, quand il fera beau, parce qu'il y aura les terrasses à nouveau. Mais bon, j'y crois moyennement. Parce que je sais que déjà, au niveau des concerts, des spectacles et tout ça, il y a plein de concerts qui ont été reportés ou même annulés. Donc j'imagine que les restaurants, c'est à peu près du même acabit. Hein.
Et si c'est avril-mai, vous tiendrez jusque-là ?
Je ne sais pas du tout. On verra. J'espère. Pour l'instant, on est encore là.
Claudia, on la sent très inquiète.
Oui, elle est très inquiète, effectivement. Elle craignait qu'il y ait de nouvelles restrictions. C'est le cas maintenant, puisqu'il y a un couvre-feu à 18h. Donc, c'est vrai que pour eux, ça réduit fortement les plages de livraison. Et bon, comme elle me le disait, elle n'est pas du tout sûre de s'en sortir. Elle essaye, ils veulent garder tous leurs salariés et ils croisent les doigts pour que ça fonctionne.
Est-ce que Kirita Gallois est déjà retournée au Cambodge.
Elle y retournait deux fois, une première fois avec ses parents, quand elle était petite, avec ses parents et son frère. Elle m'a dit que ça avait été extrêmement éprouvant pour ses parents. Et puis, elle y est retournée, elle, avec son mari et ses deux enfants, plus récemment, en 2005. Elle a évidemment goûté la cuisine cambodgienne telle qu'elle se fait là-bas. Et pour l'anecdote, c'est assez marrant parce qu'elle a trouvé que c'était très bon, mais elle trouvait qu'il manquait quelque chose. Et elle pense que la guerre a modifié les traditions là-bas, alors que elle, dans sa famille, les a gardées. Et elle pense que c'est ce qui fait que ces plats ont peut-être un peu plus de goût que ce qu'elle a trouvé là-bas.
Et ses parents, dont elle te parle à ton micro, est-ce qu'ils sont encore en vie ?
Non, ils sont morts tous les deux. Son père est mort en 2013. Sa mère, elle, est morte en 2018. Et ils ne sont donc jamais retournés vivre au Cambodge.
Merci Claudia Prolongeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation, Julien Moncoupiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.